chronique de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La chronique de Lydia Arambourg, peintre du XXe siècle, est aujourd'hui consacrée à Félix Labisse.
Félix Labisse est né à Marchiennes, dans le Nord, en 1905 et décédé à Neuilly-sur-Seine en 1982. Le monde des métamorphoses d'un surréaliste indépendant, le magicien peintre. Les années ostendaises, préliminaires à l'empire de ses rêves avec l'écriture, le cinéma et la peinture, 1922-1933. Félix Labisse est venu à la peinture en autodidacte et commence sa carrière à Ostende, où il se lie d'amitié avec James Ensor, qui reconnaît dans ce novice un talent d'exception. Nous sommes en 1927. Il fréquente artistes et écrivains dans une ville d'une inventivité artistique rare. Il se lie avec Permec, Spiliaert et le futur cinéaste Henri Storck, avec lequel il fonde en 1928 le Club du cinéma d'Ostende et en 1930 la revue littéraire et artistique Tribord. Il est en train de réaliser le pouvoir de l'image sur l'imaginaire et ses relations avec le rêve, le fantastique, déclencheur d'un monde magique et ésotérique. Dès ses débuts, il mène de front peinture et écriture. Poète, écrivain, chroniqueur, critique, scénariste, directeur de théâtre et de galerie, peintre et décorateur, rien n'est dissocié chez celui qui recourt aux mots comme aux images pour réaliser son univers poétique. Il écrit l'argument d'un court-métrage d'Henri Storck, « Pour vos beaux yeux », dont il est un des acteurs avec sa sœur Ninette et le peintre Alfred Courme. Nouvelle expérience cinématographique en 1933 avec Henri Storck, « La mort de Vénus », dans lequel il tient le premier rôle. Il ébauche un premier récit, « La déesse », dont il écrit trois versions entre 1930 et 1933. Il réalise les décors pour Lilium de Ferenc Molnár, mis en scène par Raymond Rouleau au Théâtre Royal des Galeries à Bruxelles. Avec la peinture, le théâtre sera son autre passion au service de l'étrange. Il possédait un fauteuil à pied et cornes de bouc qui appartenait à Anatole France et qui avait servi, dit-on, à des messes noires. Il tenait quotidiennement un almanach intitulé Le sorcier des familles. Chez lui, la démonologie fait tôt son apparition et sa peinture en exploitera tous les avatars. En 1928, son texte fondateur de la mythologie labissienne, Préhistoire, raconte l'histoire de la Terre jusqu'à la veille du déluge, dans laquelle il met en scène des animaux hyper diaboliques. En 1929, il donne sa version de la tentation de Saint-Antoine, avec la nuit d'Antoine, qui pose les jalons d'un merveilleux inquiétant et d'un érotisme inauguré dans son récit André et E, qui relate ses aventures réelles ou imaginaires avec une prostituée, avant d'aboutir au début des années 1960 à des évocations érotiques dérivées de la forme d'un coco-fesse. Autant de préliminaires où déjà l'illustration occupe une large place. Pour Joseph Delteil, Sur le fleuve Amour, 1928, Don Juan, 1931, qui lui permettent d'exercer ses dons de narrateur dont la verve caractérise la vie secrète d'Isabeau de Bavière du marquis de Sade, paru en 1949. Quel plus bel hommage peut-il avoir que celui de James Ensor dans sa préface au catalogue d'une exposition à Ostende en 1930, à laquelle il participe. Gare à toi, Félix. Oiseau bleu, papillon téméraire, tu as frôlé nos toiles bien tendues, enduites de saccharine et tissées de fils frais. Je vous salue, Félix, plein de grâce. Chez Labisse, le calembour graphique, l'inversion des sens et des valeurs font partie de ses armes pour servir le désir et l'inconscient. 1933, Paris, en marge du surréalisme, les amitiés. Adoubé par James Ensor, Labis arrive à Paris en 1932 avec la troupe de Raymond Queneau, qui lui remettra son épée en 1967, après que le peintre eut été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1966. L'amitié, un mot derrière lequel se cache une réalité vécue, avec Robert Desnos, Antonin Artaud, les frères Prévert, Paul Éluard, Philippe Soupeau, Jean-Louis Barrault, Raymond Rouleau, Christian D'Autremont. Masqué pour mieux démasquer, Ensor lui inspire « Grand carnaval ostendais », une toile de 1934 qui sera acquise par Raymond Rouleau. Raymond Rouleau, qu'il a retrouvé au Théâtre de l'Œuvre, tout comme Jean-Louis Barrault, qui occupe un atelier voisin du sien au Bateau Lavoir. Barrault présente au Théâtre de l'Atelier son premier spectacle, « Autour d'une mer » de William Faulkner. Labis réalise décors et costumes. La littérature le passionne, et surtout celle qui répond à son attirance pour l'au-delà du réel, point focal de sa vision en choses de l'en deçà. Nulle surprise donc à voir figurer parmi ses lectures familières les vies imaginaires de Marcel Schwab, l'hérésiarque et l'enchanteur pourrissant d'Apollinaire, les moralités légendaires de Jules Laforgue, la nuit de Zeebrugge et Marguerite de la nuit de Pierre Macorlan. Entre légèreté et gravité, Labis exerce un imaginaire prédisposé au charme opératoire de ses récits. En 1937, il peint sa première œuvre sur le thème du Minotaure, monstre cher aux surréalistes et à Picasso. Le Minotaure rouge, appelé ultérieurement le Minotaure vermoulu. L'année suivante, il présente une exposition particulière de ses œuvres, toutes datées de 1937, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. En juin 1938, il fait la connaissance de Joséphine Herlin, qui deviendra sa compagne, puis son épouse en 1955. Début 1939, il peint de nombreux portraits, des gouaches dominées par des nus féminins, sans tête, évoluant dans un décor marin ou urbain, appartenant au monde des sortilèges. À Bruxelles, sa rencontre de Magritte et de Delvaux précipite son entrée dans le surréalisme, comme en témoignent ses deux peintures, Le piano et La fille du château, avec lesquelles il dit être passé d'un expressionnisme poétique flamand à une peinture d'imagination. La guerre, 1940-1944, destin, fatalité, œuvre prémonitoire. Labis est mobilisé et affecté au camp de Sioupe, dans la Marne. Là se constitue une unité de camouflage organisée par Robert Ray, professeur à l'école du Louvre. En mars 1940, la première compagnie FI de camouflage du quartier général, composée d'artistes, vient se fixer au château d'Ermenonville. Pierre Delbé, directeur de la maison Jansem, le décore avec un mobilier de style. Lieu de sortilège, dit Labis, impressionné par la demeure et ses environs, qui lui inspireront des arbres anthropophages. Démobilisé en 1941, Labis rejoint Paris, où il vit, suivant son expression, les délices de l'occupation. Il réalise les décors pour Noé, d'André Aubet, à la demande de Jacques Copeau, administrateur provisoire de la Comédie-Française. Il retrouve ses amis Jean-Louis Barrault, Desnos, les peintres André Marchand, Maurice Brianchon, Lucien Couteau. Il se lie avec Georges Huniet. Il séjourne au Château Léger à Fontvieille, à l'invitation de Pierre et Suzy Delbé. Ses séjours en Provence transforment son style et sa manière. Il met son penchant naturel pour le classicisme au service d'une peinture alliant un dessin d'orfèvre à une composition ordonnée pour libérer les sortilèges qu'il habite. Ingres et David sont des modèles. Il fait référence à ce dernier avec Charlotte Corday, en 1943. Un thème qu'il reprendra dans une autre toile en 1946, Charlotte Corday au poisson, inspiré d'un rêve de Jean-Louis Barrault qui représente l'héroïne nue des poissons entre ses cuisses, évocation de la sirène. La toile est exposée au Salon d'automne de 1946. Tout comme avec le bain turquoise, exposé au Salon de mai 1968, hommage à Ingres, ses peintures sont au service de ses rêveries diurnes qui s'enracinent dans ses souvenirs d'enfance. Les récits de la guerre franco-allemande de 1870 par ses grands-oncles trouvent un écho dans « Ces malheurs de la guerre » qu'il peint alors. Ces gouaches, profanation des dieux, crimes en argolide, présages de guerre en sont les expressions troublantes. Entre 1942 et 1944, Labis choisit ses héroïnes pour un gynécée de la castration. Judith, Médée, Circé, Pandésilée, toutes amazones, magiciennes, sorcières. La figure emblématique d'Andromède, chère à Labis, réapparaît dans ses illustrations pour le poème de Robert Desnos, Bain avec Andromède, détourné par Jules Laforgue. Le livre paraît en 1944, alors que Desnos est déporté en camp de concentration. Il n'en reviendra pas. Desnos qui voyait en Labis un ordonnateur de mythologie. Les meurtres sont au sein de son œuvre, comme crime passionnel, transcription métaphorique, comme le sont les courtisanes, le bonheur d'être aimé, une amoureuse à tête de lionne, Bérénice, avec sa tête de lionne battue, en 1944, ou encore les parcs de 1944. Et le théâtre, toujours présent, qui le fait travailler pour Christian Casadesus et sa compagnie du Regain, Hamlet de Shakespeare, en 1942, et l'annonce faite à Marie de Claudel, en 1944. L'aventure du surréaliste révolutionnaire. Année d'après-guerre, 1945-1949. Ses nus féminins, suaves, envahissent sa peinture. Femme séductrice, buste au sein nu, vêtements de peau plaqués sur une autre peau, gantés, en collant, née d'une hybridation associant tous les règnes qui abolissent la logique au profit d'une mythologie universelle, au profit de nos rêves et de la raison du peintre. Femme reptile, avec le sixième acte de Bérénice, la guivre guénégote d'histoire naturelle, composée de 30 dessins publiés en 1944, figure dans son exposition en 1945 Galerie Rouanchel. Sur la couverture du catalogue, une toile récente, « Bonjour Marie », un corps de femme qui reprend le visage de l'ange de Reims. Son univers ésotérique se précise. Il se souvient des légendes flamandes, de la fête de Gaillan à Douai et aussi des contes de Charles de Coster. La particularité de Labis est dans sa connaissance intime des ouvrages ésotériques. Colin de Plancy, Eliphas Lévy, Saint-Yves d'Alvèdre, Stanislas de Guatta, qui préside à l'Institut des Vaines Recherches. En 1947, le marquis de Sade lui inspire une peinture-objet, la fenêtre du marquis. C'est à cette époque qu'apparaît son mannequin nu, à chaussettes noires et talons hauts, qu'il avait acquis aux Galeries Lafayette et dont la présence obsessionnelle dans son œuvre est à mettre en parallèle avec la poupée du peintre Bellemare. Sous la pression de Christian d'Autremont, futur cofondateur du groupe Cobra, et de Noël Arnaud, Labis participe à la réunion du surréalisme révolutionnaire du 31 mai 1947 au Café Louis, 97 boulevard Saint-Michel. Malgré plusieurs tentatives pour le convaincre de se rallier au groupe, Labis affirme une indépendance inflexible. Même si son exposition de 1947 à la Galerie du Faubourg Saint-Honoré en garde une empreinte. Elle inspire à Jacques Prévert un texte « Question de principe ». Labis s'installe en 1942 dans l'ancien atelier de Maneret, rue Campagne Première, où Alain Resnais vient le filmer. « Théâtre et peinture, servi par la pensée surréaliste de Labis. Labis n'a jamais appartenu au groupe surréaliste constitué par Breton. Ainsi participe-t-il à l'exposition « Peinture surréaliste en Europe » organisée à Sarrebruck en 1952, mais dans la section « Artistes de tendance surréaliste en dehors du mouvement ». Son univers est peuplé de songes, d'exorcismes, où le principe des greffes prend jusqu'à la logique du récit. Sphinges et striges évoluent dans des décors végétaux ou minéraux. Le théâtre est toujours au cœur de ses sortilèges. Il enchaîne les productions pour l'opéra, Le Martyr de Saint-Sébastien en 1956, Le Roi X en 1966. Au théâtre Antoine, c'est Le Diable et le Bon Dieu de Sartre, mis en scène par Jouvet en 1950. La compagnie Renaud Barrault, qui l'accompagnera plusieurs fois lors de ses tournées en Amérique latine, dès 1950, année où il participe à la première biennale de Sao Paulo. Au Brésil, en Uruguay, il découvre une nature luxuriante, les mulâtresses et la sorcellerie populaire qui lui inspirent son hommage à Gilles de Rais en 1957. Homme caméléon, Labis participe à des groupes, expose dans les salons. Membre fondateur du Salon de Mai en 1945, ses peintures sont attendues annuellement par tout un public. Libidoscaphe, Grand D et Sélénide, les femmes bleues. Scandaleuses, ses peintures, ses œuvres inspirées par la démonologie, la suite des Égites, sont marquées par un érotisme auquel il donne le nom de libidoscaphe, symbole sexuel flottant qui habite ses peintures. Libidoscaphe dans la baie de Rio, libidoscaphe nuptial en 1962. De 1963 date sa grande toile titrée MCC1V, donc 1963, inspirée par l'entrée des croisés. Il effectue son cinquième voyage au Brésil comme commissaire de la Biennale de Sao Paulo. En 1960, il a fait la connaissance à Paris de la cantatrice brésilienne Maria da Aparecida. Il fait son portrait. Sa plastique l'inspirera pour ses futurs modèles féminins. C'est au retour de New York, où il a exposé Galerie 63, qu'il entreprend sa série des Grands D, exposée Galerie de l'Europe à Paris. Des toiles qui commencent par la lettre D et représentent des formes minérales flottantes dans une atmosphère sidérale. En 1964, il participe à l'importante exposition « Le surréalisme, source, histoire, affinité » organisée par Patrick Wahlberg à la Galerie Charpentier à Paris. Apparaissent ses premières femmes bleues, d'un bleu indigo au cérulum, qui identifie la peinture de Labis. Une héros-fiction qu'il développe avec la série des Sélénides, ces filles de la lune, inaugurées au château de Saint-Bernard à Hyères en 1965, propriété de Marie-Laure de Noailles. Ce séjour réveille ses souvenirs d'un livre lu pendant son adolescence, Les aventures d'un savant russe, de Lefort et de Graffigny. Il expose ses 36 Sélénides à Bruxelles en 1966. Égérie baudelairienne, image désirante, démon et jeu d'image. Depuis 1951, il vit à Neuilly dans la maison décorée par sa femme, Johnny. Ses modèles se succèdent dans l'atelier et sur ses toiles. La cantatrice Maria da Aparecida, Nixon, Lourdes, partage ses faveurs picturales avec des femmes célèbres. Ses décors et costumes pour Jeanne au bûcher de Claudel et Honegger pour l'Opéra de Rio sont contemporains d'une de ses toiles majeures, Les Trois Glorieuses. Des rétrospectives se succèdent, à Charleroi en 1969, Rotterdam en 1973, Ostende en 1979. Ange ou démon envahissent ses toiles. Chacune de ses expositions est un événement. En 1972, à la Galerie de Seine à Paris et à la Galerie Zibrachot à Bruxelles, il présente ses « Faiseuses d'histoire ». En 1974, toujours chez Zibrachot, ce sont les 400 coups du diable, un ensemble qu'il présentera en 1977 à Paris, Galerie des Grands Augustins. À la fin de cette année, apparaît un nouveau thème avec les Cénobites et les Pères du désert face aux femmes bleues ou noires, tentatrices confrontées au crâne humain et à la croix. La grande Thébaïde accomplit, selon les mots de Philippe Soupeau, la surréaliste et incoercible vision onirique de l'abysse. Le voile recouvre leurs visages dans des cérémoniales démoniaques qui ouvrent sur les mystères d'Isis, titre de sa dernière exposition. Il a été président de l'Académie des Beaux-Arts en 1981.